Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech & Co Business. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business. On va commencer par parler du retour en force de la machine Google sur l'IA générative. Oui, on l'a beaucoup parlé au cours de ces 18 mois d'OpenAI. On a commencé peu à peu à reparler de Google et Google a fait sa grande conférence Google Cloud Next il y a quelques jours à Las Vegas. C'est l'occasion de revenir sur toutes ces annonces et de voir comment Google est en train de se replacer un peu dans cette bataille de l'IA générative. En deuxième partie, on parlera aussi de comment combler toutes les failles à l'approche des JO, les failles de cybersécurité. Et on verra justement, vous connaissez bien entendu l'annuaire Active Directory, et bien il y a un député qui s'inquiète justement qu'on ne s'intéresse pas davantage à la sécurité de cette Active Directory qui pourrait être potentiellement des failles pour les pirates. Et puis deuxième partie d'émission, la formation sur les risques liés à l'IA, c'est une priorité pour les Français. C'est notre baromètre d'Oxa. On est allé interroger les Français et les populations tech pour leur demander ce qu'ils pensée de l'IA générative, si ça transformait le monde du travail, si ça transformait la façon de travailler et s'ils avaient besoin de formation. La réponse est oui, mais vous allez voir, on va descendre un peu plus dans les détails. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
C'était il y a quelques jours à Las Vegas, le Google Cloud Next, le grand rassemblement du cloud chez Google. Et c'est vraiment le retour en force de la machine Google, notamment sur l'IA générative. C'est ce que tous les experts, les analystes présents là-bas ont ressenti. Et on va en parler avec Isabelle Fren. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directrice générale de Google Cloud France. Alors on le sait aujourd'hui, ils sont trois. Vous êtes trois, vous partagez le gros du marché. Il y a Amazon, il y a Azure, Microsoft et bien entendu Google Cloud Platform qui, il y a un vrai coup de boost. Je regardais les chiffres d'affaires. 2021, c'était un peu moins de 20 millions. Enfin, c'était 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 2023, deux ans plus tard, 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires, bien entendu, au niveau mondial. Et puis, bien à Las Vegas, ça va être l'occasion de revenir justement sur quelques annonces. Il y a eu beaucoup d'annonces autour évidemment de Gemini, et puis vous allez nous expliquer un peu avec Vertex AI, voilà ce que ça, à quoi ça correspond, le passage à l'échelle. On a beaucoup parlé aussi de ce processeur Axion, parce que oui, il faut travailler NVIDIA, mais il faut savoir aussi travailler en parallèle. Et puis tiens, on nous a dit aussi un autre sujet qui était très présent dans la discussion, c'était tout ce qui était, alors ça concerne pas Google directement, mais les discussions autour de VMware Broadcom. Mais vous êtes quand même l'un des acteurs autour de tout ça. Alors, la première question, Isabelle, donc les analystes s'accordent tous pour dire que la conférence de Las Vegas a vraiment marqué par enfin du concret sur Google Cloud Platform et l'IA générative. Et tout le monde dit, on a senti là que ça y est, Google enclencher vraiment l'offensive, même si vous avez toujours été là, mais c'est vrai que pendant 18 mois, on a beaucoup plus parlé d'un autre acteur. Et est-ce que c'était ça, hein, la première tendance marquante de ce Google Next?
C'était effectivement une des premières tendances, et j'allais dire, cette année, on passe finalement 2024, pour nous, c'est l'année du passage de l'expérimentation à la production.
Voilà.
Donc c'est effectivement très important, c'est ce que tout le monde attend, c'est ce que nos clients attendent. Et pour en revenir, nous, on a toujours prôné une approche audacieuse, mais en étant prudent de toute façon, de respecter un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'annonces pendant ce Next 2024. Il y a eu plus de 200 annonces. Moi, ce que j'en retiens, c'est, vous l'avez cité, c'est ce fameux processeur Axion, processeur ARM, qui va permettre d'avoir des performances à la fois sur les inférences et sur l'énergie. Hein, c'est important aussi. 50% de performance.
Alors, Google Cloud travaillait déjà, parce que vous avez déjà.
On continue de travailler avec les grands fournisseurs de TPU, de GPU, effectivement. On continue nos partenariats. On est une entreprise ouverte, nous. Oui. Donc, on a toujours prôné l'ouverture. On continue et on continuera encore pendant de nombreuses années. Mais c'est vrai que ça nous paraissait important aussi de sortir cette version de processeur par rapport à nos outils, par rapport à ce que l'on souhaitait faire sur le marché. Et puis, encore une fois, la performance est importante d'un point de vue performance que l'on va délivrer au niveau des données, mais aussi, et de l'IA générative, mais aussi de la partie énergétique. Oui. Parce que
prendre.
On le sait, c'est aussi au cœur des préoccupations de beaucoup de personnes. Et nous aussi, 60% de performance énergétique en moins, avec 50% de performance en plus, c'est quand même assez remarquable.
D'ailleurs, je recommande, on en a parlé cette semaine dans Tech & Co, la quotidienne, le livre de Gilles Babinet qui s'appelle Green AI, l'AI au service du climat. Donc, d'un côté, oui, l'AI, ça a son empreinte carbone, évidemment. Il va falloir vraiment s'y intéresser de près parce qu'effectivement, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais, alors, à la fois, il y a ceux qui travaillent pour réduire cette consommation d'énergie, puis il y a cette AI qui peut permettre, qui peut aider aussi à réduire toutes ces consommations d'énergie. Comment cette dynamique là autour de l'IA, de l'IA générative, elle se traduit sur le marché français? Vous allez faire un événement, c'est le 14 mai à Paris, donc qui sera un peu un rappel de ce qu'il y a eu à Google Next, mais aussi des spécificités bien françaises. Mais justement, comment vous sentez cette dynamique? Est-ce qu'on est là aussi dans ce côté passage à l'échelle?
Tout à fait. Alors, quand même, pour revenir sur Next, puisque c'était, voilà, on a mi-chemin en fait entre Next et puis notre événement du 14 mai. Moi, ce que j'ai noté à Next, c'est quand même il y a eu beaucoup de clients français qui ont été signés en plein air par Thomas Curran. Il y a eu Carrefour, il y a eu Mistral, il y a eu Orange. Donc c'est quand même, on a eu beaucoup de clients français qui se sont déplacés, qui sont venus, qui sont intervenus dans des ateliers. Donc ça montre que la France n'est pas en reste sur cette thématique. Loin s'en faut, et c'est plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette présence française. Ce qui se passe en France, on en est exactement dans les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec beaucoup de nos clients sur des tests, sur des cas d'usage, et que maintenant on va passer en production. Donc la France est vraiment pas du tout en retard et en reste sur ces sujets-là. Moi, j'étais très contente de voir un Orange intervenir pour parler de ce qu'ils font.
On va revenir.
Autour de nos solutions. On a des solutions. Et vous l'avez dit. Et pour revenir sur les innovations qui sont vraiment marquantes parmi les 200 qu'on a eu. Toujours au carrefour en fait entre la souveraineté finalement et la technologie, c'est la possibilité aussi maintenant de pouvoir, au-delà d'avoir les données dormantes en choix de localisation, on va pouvoir avoir aussi le choix sur les données au travail. Donc ça c'est important aussi en termes de localisation, parce que il y a des enjeux de souveraineté aussi qui sont importants et qui sont importants en France. Donc ça c'est aussi un point important. Et puis il y a tout ce qu'il y a eu effectivement autour de l'annonce de Gemini. Il y a aussi et c'est aussi remarquable l'annonce autour de la productivité des outils de travail autour de Workspace, la possibilité.
Revenons, on va les faire un peu pas une par une parce qu'il y en a évidemment beaucoup, mais voilà, après quelques tendances. Mais je vois, alors c'est plus de 130 modèles d'IA disponibles dans Vertex et dont Gemini 1.5.
Hein, donc Gemini 1.5, voilà, absolument, c'est un modèle. Voilà, c'est comme Mistral en état. Mistral, on a été le premier à les intégrer dans notre modèle à travers la marketplace dans Vertex AI. Donc oui, c'est 130 modèles, donc c'est très riche. En fait, la façon dont on voit les choses, nous, c'est de dire on va fournir en fait la grammaire et la conjugaison technologique qui vont permettre à nos clients de parler leur propre langue d'IA.
Oui.
C'est vraiment comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. On va pouvoir, grâce à Vertex, produire des nouveaux agents. Des agents pour les employés, c'est-à-dire de leur permettre d'être plus productifs. On va pouvoir créer des agents pour les créatifs, c'est-à-dire de reprendre un peu ce qu'ils ont fait, améliorer ce qu'ils ont fait. Et puis aussi pour les clients, parce qu'à la fin, on sert aussi, nos clients servent des clients et améliorer aussi la qualité du service client.
Et on voit des clients aujourd'hui qui ont cette certaine maturité, alors que ce soit à l'international ou en France, et qui sont prêts aussi à avoir sur une même plateforme. Et c'est pour ça que Google a investi dans Anthropic, vous travaillez avec Llama, dans Mistral.
Bien sûr.
Des clients qui sont prêts selon le cas d'usage, selon ce dont ils ont besoin de travailler avec Gemini, avec Mistral, avec ça aussi.
C'est comme si Frédéric, vous alliez à l'épicerie, vous avez des invités ce soir et vous allez préparer un dîner. Si vous arrivez dans l'épicerie, qu'il n'y a qu'un seul ingrédient, alors certes, vous allez pouvoir nourrir vos convives. Je suis pas sûr qu'ils reviennent dîner chez vous de sitôt. Alors que si vous arrivez dans un endroit où il y a beaucoup de choix et qu'en fonction de ce que vous avez envie de cuisiner, pour continuer cette analogie, et de préparer pour satisfaire vos convives, alors vous allez utiliser des tas de possibilités.
Et surtout, quand je parlais de cette maturité, c'est qu'en plus, les entreprises ont compris qu'elles pouvaient, tel type d'application, de cas d'usage, je vais le faire sur Gemini, d'autres, je vais le faire avec d'autres. Alors justement, tiens, un accord, vous parliez d'Orange à l'instant. Donc Orange, toute la partie IA générative, c'est avec Google Cloud. Notamment.
Alors, on a ce qu'Orange a partagé durant Next, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 25 000 utilisateurs sur l'IA générative de Google. Ils en embarquent 1000 personnes par semaine en plus de tout ça. Donc on a un vrai déploiement là à l'échelle. On n'est plus dans l'expérience, on est vraiment dans la production. Ils travaillent sur de nombreux cas d'usage et notamment autour du service client, de pouvoir proposer notamment dans ce qui est autour du support, par exemple, quand on est en train d'avoir un client qui a un problème technique, de pouvoir comprendre la conversation et puis que l'IA puisse proposer des solutions, voire même apporter d'autres solutions qui pourraient être connexes et compléter finalement le dispositif qu'a le client pour générer un peu plus de valeur sur un service qui a priori au départ j'appelle, j'ai un problème, je veux qu'on résolve mon problème, voilà, de créer un peu de valeur autour de ça. Il y a aussi autre chose qu'on a annoncé avec Orange dans au cours de Next, c'est qu'on a une nouvelle offre qui s'appelle Google Distributed Cloud for Edge, et en fait Orange va l'utiliser dans les pays qui ont finalement des contraintes réglementaires et de rétention de données pour aller mettre le modèle au plus près des données pour pouvoir mieux servir les clients et puis surtout se conformer aussi à des contraintes réglementaires.
On sait que la force de l'un de vos concurrents, Microsoft, pour le citer, c'est justement sa communauté de développeurs. Là aussi, on a senti dans ce Google Next Las Vegas que la priorité était donnée aussi à ces développeurs, justement pour accompagner derrière les entreprises ou les startups, enfin tous ceux qui travaillent.
Oui, Frédéric, mais c'est vrai. Et Google a toujours été une entreprise qui attirait beaucoup les développeurs. Oui. Enfin, on va donner des chiffres. Hein. L'année dernière, retour de Next, août 2023, on annonçait que 70% des licornes de GenAI étaient clients de Google Cloud. On est passé à 90% entre août et maintenant. Oui. Donc il y a une vraie accélération sur le sujet, vous l'avez dit, mais c'était déjà 70%. Donc il y a une vraie. Et puis, on a un modèle qui est capable à la fois de servir des startups. On a fait une annonce avec Silver qui fait du microcrédit pour les entreprises, donc qui se sert de notre IA générative pour mieux scorer les clients. Voilà, c'est une start-up qui devient une scale-up. Et puis on a à côté de ça des clients comme Orange ou des clients comme Carrefour
Quelles sont les craintes que vous entendez avec parce que vous avez accompagné ces clients français là-bas, mais bon, plus globalement, même les clients à l'international, autour de cette IA générative? On parle évidemment, bon, faut trouver le bon cas d'usage, hein, celui qui va apporter la valeur ajoutée. Il faut trouver des compétences. Alors, fort heureusement, Google en a et peut accompagner ses clients. C'est le coût. C'est aussi, et on va en parler, le côté responsable. Dans responsable, j'entends éthique et puis ce dont on a parlé tout à l'heure, la partie liée au développement durable, voilà, à la consommation d'énergie. Pour vous, voilà, c'est un peu ça les craintes que vous entendez aujourd'hui.
Ce ne sont pas des craintes en réalité, ce sont des façons d'aborder le sujet. C'est-à-dire que comme on aborde n'importe quel projet, l'idée c'est de trouver le cas d'usage qui va effectivement produire des effets rapidement et permettre de passer à l'échelle et de faire des gains. Évidemment, on n'est pas, on va pas faire de l'expérimentation pour le plaisir de faire de l'expérimentation. Ça peut avoir du sens à un moment donné, mais finalement, il va falloir vite qu'on trouve des cas d'usage bien concrets. C'est plutôt après, vous l'avez dit, comment je forme mes collaborateurs. Il y a tout un sujet d'acculturation, mais que l'on fait nous à la fois auprès des comités de direction, parce qu'en fait l'IA elle met tout le monde autour de la table. Il y a la direction générale, il y a les organisations métiers, et bien sûr la DSI.
Plus qu'à l'époque, la transformation numérique, l'arrivée du cloud, où là ça restait malgré tout, ça restait un dialogue autour de la DSI un peu avec les métiers. Là on sent que l'IA, tout le monde
est autour de la table, et tout le monde y voit un intérêt en tout cas. Donc il faut trouver effectivement les bons sujets. La formation évidemment et les compétences, c'est important. Nous on propose aussi de la formation autour de notre technologie, mais que ça soit l'IA d'ailleurs ou quelles que soient les autres technologies du portefeuille, on propose ces formations. On a formé de nombreux partenaires comme des Capgemini, des Sopra Steria, des plus petits comme Artefact ou Sphere ou OnePoint. Voilà, on a aussi tout un réseau de partenaires qui peuvent aider dans ces démarches. Et oui, on va attendre du résultat. Et pour en revenir sur la partie sustainability, et c'est vrai que c'est un sujet important et prenant chez nos clients. On a parlé de ces fameux processeurs. Nous, ça fait déjà quelques temps qu'on fournit un outil qui permet de regarder et de mesurer la consommation finalement des usages qu'on fait dans notre cloud. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi l'endroit où c'est hébergé, le data center. Ouais.
Nous, nos data centers. Vous avez pas mal, comme les autres, mais notamment, moi, en mémoire, quelques contrats signés, justement, avec des fournisseurs d'énergie décarbonée.
Enfin, oui. On le fait depuis 2017, donc c'est quand même pas un sujet.
De toute façon, c'est ce qu'on vous demande, vos clients.
On le faisait avant que nos clients le demandent, puisque de 2017, c'était déjà 7 ans maintenant, ça fait quand même un petit moment.
Comment on gère, en marge, ça concerne Google Cloud, évidemment, mais la bascule aussi entre. Alors, je sais pas si c'est une bascule, mais cette complémentarité entre moteur de recherche et IA générative, parce que ça aussi on sent que quand on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, on voit qu'il y a moteur de recherche et IA générative qui est un autre type de requête, mais souvent on se dit, est-ce que l'un va pas se faire au détriment de l'autre?
Non, j'allais dire, c'est plutôt l'un en complémentarité de l'autre. Mmh. C'est comment on intègre de l'IA un peu plus poussé dans le moteur de recherche, comment on intègre aussi cet aspect moteur de recherche qui est très puissant, le moteur de Google est très puissant, comment on l'intègre aussi nous dans nos technologies, comment on avait intégré le search au sein des technologies Vertex AI pour produire ces fameux agents et d'intégrer le search. Donc non, c'est vraiment une complémentarité entre les deux. L'un se nourrit de l'autre et vice-versa.
Alors, autre sujet sur le... Alors, je reviens justement sur Action. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir son propre processeur, donc sur architecture ARM. C'est de... Ben voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec un Nvidia qui est déjà très très sollicité par ailleurs, qui
Non, c'est vraiment encore une fois un choix d'ouverture et de s'adapter au cas d'usage. On va pas avoir besoin des mêmes produits pour les mêmes usages, et donc c'est vraiment cet esprit de se dire on va continuer à avoir ces partenariats parce que c'est clé pour nous, les TPU, les GPU. Ce nouveau processeur va permettre de faire d'autres choses avec d'autres typologies de projets. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est pas du tout comme un annule et remplace, mmh, ou une concurrence, etc. C'est vraiment toujours cet esprit de se dire qu'il faut qu'on apporte les meilleures solutions à nos clients au meilleur moment et avec ce qu'ils veulent en faire surtout.
Et bien voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 14 mai. Hein,
Le 14 mai, toute la journée,
à l'Accor Arena. Donc merci pour les plus anciens, voilà, pour bien se situer. Merci Isabelle Fren, directrice générale de Google Cloud France, d'être venue nous parler. Donc c'était il y a quelques semaines, ce grand rendez-vous Google Cloud Next. Il y a beaucoup d'annonces, hein, si vous voulez. On lisait plus de 200 dans l'IA générative, dans le cloud. On n'a pas eu le temps d'en parler, on l'a rapidement évoqué, mais BigQuery, tout ce qui est autour de la gestion de la data, il y a la cybersécurité, enfin il y a beaucoup de sujets autour de tout ça. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, ben justement, cybersécurité, on va en parler tout de suite avec nos deux invités suivants.
BFM Business, Tech & Co Business, les invités.
Et oui, à l'approche des JO, on parle beaucoup évidemment de cybersécurité, comment combler toutes les failles. Et justement, il y en a peut-être une, c'est l'annuaire Active Directory. Si vous travaillez en entreprise, vous savez évidemment de quoi on va parler, mais on va quand même vous le réexpliquer un petit peu. Une faille potentielle des systèmes d'information d'entreprise, mais aussi dans les administrations. On va en parler avec vous, Philippe Laton. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député Modem de Vendée, commissaire à la CNIL. Et Mathieu Trivier. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Directeur technique, expert en identité chez Sempéris. Et vous êtes Sempéris, spécialisé justement, et ça tombe bien, dans les solutions de sécurité autour d'Active Directory. Donc, c'est une tribune, hein, Philippe, que vous avez, on va y revenir dessus, que vous avez écrite il y a quelques jours sur l'urgence de sécuriser les annuaires Active Directory des structures publiques et privées. On le rappelle, hein, l'Active Directory, c'est ce qui gère tout l'annuaire de l'entreprise. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, l'administrateur, c'est vraiment qui est au cœur des systèmes d'information de la machine. Et on se rend compte, alors c'est ce que vous dites, Philippe, dans la tribune, moins de 10% des annuaires Active Directory sont correctement sécurisés. Et or, si il ne l'est pas, eh bien c'est la porte ouverte à n'importe quelle attaque. Et c'est vrai que l'on sait qu'à l'approche des JO, on va être un pays très... Déjà, on voit, hein, tous les jours, il y a une cyberattaque sur des hôpitaux, des entreprises, des structures publiques. Et à l'approche des JO, ça va encore s'accentuer. Premier mot, Mathieu Trivier, nous rappelez un peu le rôle que joue Active Directory dans le système d'information de l'entreprise.
Alors, l'Active Directory, c'est la brique d'identité de Microsoft. Donc, c'est une technologie qui a 25 ans. Il faut quand même se rendre compte qu'on est sur une technologie qui est très ancienne, qui n'a jamais été pensée pour les risques qu'on voit aujourd'hui,
oui,
et qui va fournir toutes les couches d'identification, d'authentification et de sécurité pour l'identité des utilisateurs.
Ah, c'est vraiment l'annuaire.
Donc on a vraiment
avec les droits d'accès, etc.
Sur les droits d'accès, sur comment le matin, quand chacun tape son login, son mot de passe sur son ordinateur, c'est Active Directory qui vous permet d'accéder à votre machine et à toutes les ressources.
Et donc on comprend pourquoi les attaquants ciblent ça, parce qu'en ciblant un annuaire avec tous les droits d'accès, ben, ils apprennent plein de choses.
Les attaquants
et pour ceux qui trouvent un mot de passe, c'est parti.
Les attaquants ont bien compris que en passant par Active Directory, ils arrivaient à récupérer un certain nombre de privilèges,
mm-hmm,
et donc derrière, ils arrivaient à se répandre dans l'environnement avec toutes les fins qu'on leur connaît, du vol de données, du chiffrement, etc.
Et surtout, comme le dit Philippe dans sa tribune, ces annuaires ne sont pas très bien sécurisés. Il y a des mises à jour qui ne sont pas faites. Il y a des vulnérabilités ces mises à jour avec des vulnérabilités qui ne sont pas corrigées. Et donc, il y a parfois des utilisateurs qui disposent de tout un tas de droits parce qu'on les a déclarés comme ça, et puis alors qu'ils devraient avoir, ça devrait être un peu plus restreint, c'est ça ?
Il y a deux choses. Déjà, comme je le disais, c'est une technologie qui a 25 ans, donc qui est très vieille, qui est toujours utilisée, qui n'a jamais été conçue en fait à l'époque pour faire face aux menaces qu'on a aujourd'hui. Et puis il y a aussi cette deuxième partie qui est vraiment que les attaquants sont bien rendus compte qu'en passant par là, ils arrivaient à aller partout. Donc l'Active Directory qui pendant très longtemps a fonctionné, donc chacun on l'utilisait, ça fonctionnait très bien, personne ne s'y intéressait. Et puis, ben, est arrivé 2017, les premiers ransomware, NotPetya, WannaCry, où les attaquants ont commencé par passer par l'Active Directory, ils se sont rendus compte que on avait vraiment une dette technique à ce niveau-là. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était la porte ouverte où les attaques se sont passées par Active Directory.
Et donc, Philippe Latombe, vous êtes l'un de nos députés spécialisés, vous êtes quelques-uns spécialisés, évidemment, dans le numérique. Et puis, vous avez souhaité... Alors, pourquoi vous avez souhaité alerter autour de, justement, Active Directory ?
Parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'on a malheureusement des expériences très récentes d'attaques qui sont passées par des Active Directory et qui ont impacté nos concitoyens de façon très très marquante. Mm-hmm. Le France Travail est un très bon exemple de ce type d'attaque. On se fait autoriser des droits qui permettent d'aller chercher des données sur 40 millions de nos concitoyens sur plus de 20 ans d'informations.
C'était il y a à peine un mois.
France Travail avec un accès qui était donné lors de la fusion des systèmes d'information entre Cap Emploi et Pôle Emploi notamment.
En plus, je vous interromps. On se rend compte que pour y aller, faut pas être faut se débrouiller, être un peu alerté sur l'informatique, mais il faut pas être un petit génie qui a trouvé des astuces. C'est un peu de logique, un peu de bon sens, un peu de chance.
Et puis c'est d'avoir un système d'information qui est pas suffisamment protégé.
Oui.
Et de trouver la faille. Et on sait très bien, et ça c'est l'environnement géopolitique actuel, c'est que nous rentrons dans une phase qui est la phase des JO, où nous savons que le pays hôte est généralement très attaqué, directement pour ses infrastructures étatiques, pour les infrastructures des JO, mais aussi pour toutes les entreprises qui gravitent autour, parce que c'est une vitrine et que ça permet de pouvoir aux attaquants de pouvoir se manifester. Et donc il faut qu'on monte notre niveau de protection, en fait.
Et pourquoi vous expliquez aussi, comme le disait Mathieu, pourquoi ce problème n'a pas été pris plus tôt, parce que voilà, ça fonctionne, c'est là depuis 25 ans et puis il y a eu un peu de laisser-aller autour de ça.
Il y a des protections. Il faut pas penser que l'Active Directory est simplement c'est le problème, il est là. Il est là depuis longtemps, il a été vu, il y a des entreprises qui sont parfaitement au point sur le sujet. J'ai discuté avec le RSSI du COJO. Clairement, l'Active Directory, c'est une brique qu'il regarde quasiment tous les jours. Il le monitore en permanence. Et donc, mais parce qu'il est, il sait qu'il va se faire attaquer pendant les JO. Donc, il est déjà dans cette perspective. Il y a des entreprises qui, elles, pensent que c'est plus loin, que ça ne les... elles seront peut-être attaquées un jour, mais pas tout de suite. Or, la question, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer. Ça, c'est une certitude. La question, c'est plutôt quand.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, justement, Philippe Latombe ? Justement, vous indiquez, de votre tribune,
On est une politique publique d'incitation à la mise à jour des actifs de l'Active Directory pour toutes les organisations. Je prends un exemple sur les centres hospitaliers, les fameux groupements hospitaliers territoriaux.
Qui continuent à être attaqués.
C'est une des failles principales. Parce que quand on se fait autoriser, quand on est un attaquant des droits, on permet d'aller chercher des données, on vole ces données, on chiffre éventuellement, histoire de récupérer un bout de rançon, mais aussi on va essayer de revendre les données. Et les données de santé, par exemple, sont des données qui valent très très cher. Et donc, il faut absolument qu'on élève notre niveau de jeu. Et monitorer l'Active Directory et faire cette hygiène de base est absolument nécessaire. Mais on voit que ça ne marche pas s'il n'y a pas une politique publique derrière, s'il n'y a pas une incitation. C'est pour ça que j'alerte.
Vous dites qu'il faut vraiment aux acteurs de la tech de faire bouger, de parler avec leurs clients, aux clients d'être sensibilisés. Mais vous le dites aussi, là, il y a un moment, c'est un rôle aussi de l'administration, du secteur public, de pousser un peu...
Le secteur public doit pousser pour lui-même, d'abord, et il est très en retard sur ce sujet, beaucoup plus en retard que certains nombre de grandes entreprises. Et puis, c'est du rôle, maintenant, dorénavant, la cybersécurité est un risque que l'État doit prendre en charge au titre de... Comme la sécurité sur la voie publique, il faut prendre en compte la partie cybersécurité en politique publique. Et le minimum, c'est de commencer à élever le niveau de protection pour qu'on ait un niveau d'hygiène qui soit le plus minimal possible pour... On pourra jamais empêcher les attaques, mais au moins qu'on freine les attaques d'opportunité et qu'on rende la vie la plus difficile possible à ceux qui veulent attaquer, parce qu'ils sont assez feignants, les attaquants.
C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Ils lancent un filet et puis voilà, ils voient où ça mord. Et si ça devient un petit peu trop compliqué, ils lâchent un peu l'affaire. Voilà. Mathieu, ça veut dire quoi ? Dans les grandes lignes, on peut faire quoi ? C'est de la mise à jour. C'est comme le RSSI du COJO, c'est regarder régulièrement un peu tous les jours, un peu ce qui bouge, les signaux faibles.
Il y a plusieurs choses qui sont faisables. On a une grande chance en France, c'est qu'on a l'ANSSI qui pousse depuis 2013. Depuis 2013, donc plus de 10 ans, des règles d'hygiène pour Active Directory. On a eu des guides qui ont été...
Donc on ne peut pas dire « je ne sais pas ».
on peut difficilement dire, surtout sur la partie publique, puisque l'ANSSI est très présente et très respectée, sur, on a eu des guides en 2017, on a eu de nouveaux guides en 2023 qui viennent d'être édités pour pouvoir la bonne pratique de l'administration Active Directory.
Puis on a Horadad qui est bien.
Et on a aussi les outils Horadad et d'autres qui existent dans la communauté et qui sont là justement pour aider les gens. Nous, ce qu'on essaye de dire aussi à nos clients, c'est qu'on a besoin, un, d'hygiène en termes de mise à jour, comme vous l'évoquiez. On a la chance que Microsoft recommence avec Windows Server 2025 à remettre des nouveautés. Ça faisait depuis 2016 qu'on n'avait rien vu. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, même de la part de l'éditeur, une reprise de conscience. Mais après, c'est un travail de refonte. Et ça, pour ça, il faut des sachants. Donc c'est pour ça que nous aussi, on intervient.
Comme vous.
Voilà, on intervient pour donner aussi les bonnes pratiques et refondre en fait des Active Directory qui datent d'il y a 10-15 ans. Et qui sont totalement vulnérables.
Surtout que Philippe, il va falloir aussi, il y a cette réglementation NIS 2 qui arrive. Rappelez-nous en deux mots ce que ça doit.
NIS 2, c'est une directive européenne qu'il faut qu'on transpose avant le 17 octobre, sinon elle va s'appliquer, qui donne des règles minimales et un cahier des charges à respecter sur la partie cybersécurité pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, avec même de la responsabilité pénale pour les dirigeants les chefs de services ou d'administration qui ne respectent pas ces règles minimales quand il y a des fuites de données, quand il y a un certain nombre de choses. Et il faudra même qu'il y ait un reporting jusqu'au COMEX dans les entreprises, ce qui est une nouveauté. Et l'Active Directory devra être monitoré aussi pour faire partie de ces indicateurs. Je rajoute que pourquoi l'Active Directory est particulièrement ciblée en ce moment, c'est qu'avec l'avènement de l'IA, l'IA sert pour détecter les failles. Ah ben je suis désolé.
Mais allez-y, c'était.
Mais voilà, l'IA sert beaucoup maintenant aux attaquants pour déterminer les failles. Et le gros avantage de l'IA.
Ils sont fainéants, certains sont fainéants.
Ça permet de rentrer clairement dans l'Active Directory pour savoir exactement quel est le bon chemin pour pouvoir atteindre la cible que l'on cherche, c'est-à-dire d'avoir le maximum de droits possible pour pouvoir faire des extractions de données le plus possible et de récupérer le maximum de données.
Est-ce que ça veut dire, je rappelle, vous êtes commissaire de la CNIL, ça veut dire que la CNIL a aussi tapé un peu plus sur les doigts des entreprises qui ne le font pas assez.
Mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on... Quand il y a une fuite de données, forcément il y a une déclaration de données personnelles, il y a forcément une déclaration à la CNIL qui doit être faite, et ça fait partie des obligations de la CNIL que d'aller vérifier que c'était bien sécurisé, que c'était à l'état de l'art ou pas. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, mais que c'était involontaire et qu'ils ont été meilleurs que les systèmes. Voilà, c'est pas de souci. Quand c'était volontairement dégradé ou pas mis à jour parce que ça nécessitait des investissements et que du coup l'entreprise ou l'organisation n'a pas souhaité faire ces investissements, là, ça peut donner lieu à des sanctions. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit NIS 2 dans sa nouvelle version.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus
merci
parler
beaucoup.
De tout ça. Donc, Philippe Latombe, député MoDem de Vendée, commissaire à la CNIL, et donc avec cette tribune que je vous recommande pour alerter vos dirigeants. Pour qu'ils débloquent un peu des budgets, des formations pour justement sécuriser cette Active Directory. Et puis si vous avez besoin d'acteurs, ben justement, il y a des acteurs comme Sonveris qui sont spécialisés dans ces solutions de sécurité. Merci Mathieu Trivier d'avoir été avec nous. Alors on se retrouve dans un instant. On va parler d'un sujet qui vous intéresse aussi certainement, tous les deux et vous aussi Philippe, c'est l'IA générative. Voilà ce que pensent les Français de l'IA générative. Est-ce qu'ils la craignent? Et pourtant, il va falloir s'habituer à vivre avec. Eh bien, on va découvrir tout ça avec notre baromètre Odoxa. C'est tout de suite.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Comment les Français se positionnent par rapport à l'IA et l'IA générative notamment? Vous avez vu cette accélération. Enfin voilà, on vous en parle chaque semaine ici. On va en parler. C'est la question qu'a posée, en tout cas, plusieurs questions ont été posées aux Français, mais aussi aux professionnels de la tech, de l'IT, par Odoxa. Et justement, on va analyser tous ces chiffres avec nos experts. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour.
Bonjour.
Émile, merci d'être avec nous. Marc Trilling, cofondateur de Segus, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et évidemment dans leur transformation vers l'IA. Bonjour Marc.
Bonjour Frédéric.
Et puis Emmanuel Vignon. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Président de Sicara avec un S, expert en data et en IA et notamment data science. Donc on est vraiment au cœur de tout ça. Alors il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment sur l'IA générative. Alors on a essayé de comprendre justement avec ce baromètre Odoxa. Première chose, est-ce qu'on est l'IA, est-ce que vous êtes enthousiaste? C'était la première question. Alors là,
alors même un peu plus globalement sur les évolutions du monde du travail, mais on va voir que l'IA est quand même centrale dans ces évolutions. comme souvent, j'ai envie de dire, les Français sont assez négatifs, voient les choses un peu en noir, puisqu'on a une majorité de Français, 61%, qui se disent inquiets par les évolutions du monde du travail. Mais attention, ça c'est une moyenne. Quand on regarde dans le détail, quand on creuse les différentes catégories, eh bien on se rend compte qu'il y a une forme de fracture. Vous savez, on a beaucoup parlé de la fracture numérique il y a quelques années.
Là, il y a une fracture générationnelle.
Il y a une fracture de l'IA, plus que générationnelle probablement, mais elle est très forte sur les générations, puisqu'on voit que, par exemple, chez les 18-24 ans, on a 71% d'entre eux qui se disent enthousiastes, et on chute progressivement pour avoir seulement 32% et 20% chez les plus de 50 ans et 65 ans et plus. Donc on voit qu'il y a une vraie fracture générationnelle, mais on se rend compte aussi que, selon les professions, les cadres sont beaucoup plus positifs que les ouvriers, par exemple. Eh bien, on a la différence, et puis on voit aussi que ceux qui utilisent l'IA sont déjà beaucoup plus positifs que ceux qui ne l'utilisent pas.
Alors justement, on va faire participer nos experts. Il y a une question justement qui a été... Je voulais qu'on démarre un peu par celle-là qui nous met un peu vraiment les pieds dans le plat. L'utilisation de l'IA dans le cadre professionnel, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous ne l'utilisez pas? Et là, alors moi je trouvais que 15% c'est pas beaucoup, mais vous me dites Émile,
c'est déjà colossal, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, on en parlait avant le plateau, il y a 61% des salariés actuels qui nous disent j'utilise pas du tout l'IA et ça n'existe pas dans mon entreprise. Mais il y a beaucoup de métiers dans lesquels l'IA est extrêmement, voire impossible à implémenter. Donc avoir aujourd'hui 15% des salariés qui nous disent j'utilise l'IA, c'est déjà colossal, ça représente 4 millions de salariés qui, plus ou moins au quotidien probablement, utilisent l'IA, et auxquels on peut ajouter quand même 23% qui nous disent « moi je ne l'utilise pas encore, mais dans mon entreprise, c'est en train de se mettre en place ». L'IA a explosé vraiment en quelques mois. Donc avoir aujourd'hui 4 millions de salariés qui au quotidien l'utilisent, c'est colossal. Et là encore, on retrouve une certaine fracture générationnelle, puisqu'on a 32% des plus jeunes qui l'utilisent, contre seulement 9% des salariés de 50 ans.
Et alors, chez les professionnels du numérique, moi je pensais qu'ils y seraient tous et allaient comme un seul homme.
Eh bien, pas encore.
Il y a encore 35% qui ne l'utilisent pas du tout.
Et qui nous disent, je travaille dans une boîte où on ne l'utilise pas encore vraiment. Alors, on avait déjà vu lors d'une précédente enquête, et on va le voir aussi tout à l'heure, il y a encore beaucoup de précautions dans beaucoup d'entreprises sur la mise en place.
Oui, parce qu'on va revenir sur les freins.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas essayé à titre personnel, etc. Mais au quotidien, dans leur métier, ils sont effectivement pas encore tous usagers de l'IA.
Marc Trilling, sur ces premiers chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, moi j'ai trois choses essentielles. Alors, je partage un petit peu moins le point de vue d'Émile, mais on est là pour en débattre. Je trouve quand même que, pour être dans le sujet tous les jours, la portion qui n'utilise pas directement l'IA est élevé.
Chez les Français ou chez les professionnels de l'IT?
Même chez les pros. Ouais. Et encore plus Frédéric, c'est 75%. Pas, ouais. 75% n'utilisent pas directement ou leur entreprise n'utilise pas. Bon, là-dessus, pour moi, on en reparlera, mais il y a urgence. Le deuxième sujet, c'est, il y a un écart d'âge, vous l'avez mentionné très justement, et on en revient très simplement à dire ceux qui utilisent le plus sont ceux qu'on peut être un petit peu plus démystifiés, et encore, il y a du chemin à faire. Mais enfin, on a quand même un écart qui va se créer, qui va, je pense, s'augmenter, puisque l'IA avance à une vitesse folle. J'ai peur que cet écart, on le constate de plus en plus. On en reparlera si on fait d'autres sondages ensemble, mais je pense que ça va être notable. Mais je note aussi autre chose qui est beaucoup plus positif, c'est qu'il y a quand même un petit progrès. Il y a un progrès. Rappelez-vous, on avait fait une étude ensemble en octobre 2023. On avait une part extrêmement faible des personnes qui utilisaient l'IA. On avait beaucoup d'appréhension autour des sujets. Nous, on s'est tout de suite intéressé au marché américain. Sur le marché américain, on a 20% des salariés qui disent utiliser l'IA en février 2024, alors qu'en mars 2023, ils étaient 8%. On passe de 8% à 20%. Donc, malgré tout,
la courbe, elle est quand même assez forte. Emmanuel, pardon.
Alors, moi, j'ai un point qui est très important. La fracture générationnelle, effectivement, on en parle. Enfin, tu faisais référence à la fracture du numérique. Elle n'est pas du tout pareille aujourd'hui parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, autant avant, sur les technologies, sur les innovations précédentes, on pouvait attendre quelque part que la génération parte à la retraite ou des choses comme ça, et que la transformation se fasse assez naturellement. Oui. Aujourd'hui, on peut pas. Non. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver, je fais un lien avec un peu un autre élément du sondage, qui est ce que les Français attendent en termes de formation. Parce qu'en fait, je pense que les Français ont bien compris que cette révolution, elle allait arriver beaucoup plus rapidement que sur les précédentes révolutions, et qu'il fallait qu'ils s'y mettent. Il fallait qu'ils se forment.
Oui, et toute génération. C'est-à-dire que même si on a 50 ans, c'est du bon. tout aller dans quel, enfin, ou plus de 55 ans, allez, je suis à quelques années de la retraite, pas la peine.
Eh ben non.
Je vais essayer. Non, là, on peut
plus,
pas.
On peut plus attendre. Le deuxième point, c'est, je ne comprends pas pourquoi les Français, il y a un énorme paradoxe, pourquoi les Français sont les plus pessimistes du monde. Il y a une étude du BCG qui est sortie encore, très récemment. Les Français sont les plus pessimistes du monde. Alors que, à côté, on a Mistral, qui est quand même le fer de lance de la recherche française et qui est présent et qui tutoie OpenAI, qui tutoie Gemini, qui tutoie Google. Je ne comprends pas en fait ce paradoxe.
Parce que ce chiffre du BCG, c'est dans le monde. 70% des personnes se disent enthousiastes à l'idée d'intégrer. Alors c'est dans le monde. Hein.
Exactement.
Et un chiffre qui tombe à 58% en France et 50% se disent inquiets. Enfin voilà, on va revenir sur ces inquiétudes. Rentrons un peu plus dans le détail justement, Émile, sur les évolutions. Alors, quelles sont celles qui changeront le plus? Alors, on va parler là du monde du travail dans les années à venir. Et là, la question a été posée aux Français, voilà. Et on voit quand même que l'IA, ça part en premier.
Eh bien, oui, largement. On a cherché à voir à quel niveau se situait l'IA par rapport à d'autres évolutions du monde du travail. Il y en a quand même des très importantes, hein, puisque là, on parle des choses qui peuvent bouleverser le quotidien aussi des Français, comme par exemple le télétravail, l'amélioration entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle, le changement climatique aussi dans les entreprises, comment on intègre ça. Donc, c'est quand même des grands sujets. Eh bien, l'IA arrive en tête et ça rejoint assez nettement. Hein, 47% des Français nous le citent devant 39% sur le
ça fait beaucoup ça quand on est sondeur.
C'est un écart assez net. Et ça rejoint un chiffre qu'on avait mesuré il y a très peu de temps, où on avait 69% des Français qui nous disaient l'IA va révolutionner notre quotidien. Donc ouais. C'est une prise de conscience qui est clairement partagée par une grande partie de la population. Ils savent que c'est un changement majeur, que c'est pas un petit outil comme ça. Là, c'est vraiment, on passe dans un autre monde. Donc, il y a cette vraie conscience dans la population française.
Mais justement, moi, j'aurais pensé, alors je vais me retourner vers Marc, qui prend parfois le contre-pied d'Emile. Mais moi, quand je vois les professionnels de la tech, qu'est-ce qui va le plus changer? Ils sont 52% dire l'IA, 49% dire le télétravail, 34% dire les enjeux climatiques. Moi, on m'interroge, je dis, attendez, les gars, c'est à 100%, c'est à beaucoup, beaucoup quand même l'IA, non?
Alors, oui, mais on sort du Covid. Enfin, il y a encore ce changement, il y a le modèle de travail, le rapport au management, le télétravail, qui se pose quand même, parce que ça vient perturber le quotidien des travailleurs. Donc, je ne suis pas très étonné, d'autant qu'ils avaient deux réponses possibles dans l'enquête.
C'est un changement
pour eux.
Dans le quotidien, c'est pour mettre en rapport.
Ça va, on était sur le monde du travail.
Ouais. Par contre, je vous rejoins complètement. Je pense, et c'est encore plus vrai par rapport à nos constats d'il y a presque un an maintenant, il va y avoir deux économies. Il va y avoir une économie où les entreprises sont avec l'IA et une autre où elles commencent à monter à bord. Je ne pense pas aujourd'hui pouvoir témoigner d'un de mes clients qui n'est pas conscient que l'IA est un enjeu majeur.
Est-ce que entre le moment où il sait que c'est un enjeu et le moment où il dit bon... on verra ça à la rentrée. Et ceux qui disent, attendez, débrouillez-vous, mais moi, je veux du monde chez moi et qu'on commence. Hein.
Et en fait, vous avez mis le doigt, Frédéric, sur le sujet principal. En fait, il n'est pas tant l'IA. C'est la rapidité entre la vision et l'exécution. Cette vélocité dont parlait Emmanuel, ça arrive à une vitesse encore jamais connue dans n'importe quelle évolution technologique qu'on a connue jusqu'à maintenant. Donc, entre la vision et l'exécution, il va se passer du temps. Quid de cette entreprise qui va devoir transitionner, ce qu'on appelle nous le smart shift, qui va devoir transitionner versus une entreprise qui vient de se créer sans l'héritage et qui va passer tout de suite à un modèle où ces métiers sont engagés avec l'IA. Oui. On en parlait tout à l'heure, un développeur aujourd'hui ou un directeur artistique qui utilise nativement l'IA est évidemment plus compétitif à périmètre égal, évidemment, que quelqu'un qui ne l'utilise pas.
Et là, on revient presque à l'histoire de la génération. C'est les nouvelles générations qui arrivent, qui, elles, sont nativement, enfin, presque là-dedans. Faut quand même pas non plus les imaginer qui sont tous, mais quand même, ils l'utilisent beaucoup, Emmanuel.
Alors, je voudrais modérer un peu cette partie-là, parce qu'on pourrait penser que les jeunes, c'est hyper facile, 100% des jeunes utilisent. Moi, j'ai la chance de travailler dans un groupe technologique. Alors, chez Sicara, on est 80, mais dans le groupe, on est 700. Et c'est que des jeunes. Pour faire simple, on pourrait penser que dès la sortie de ChatGPT, tout le monde va utiliser les outils du développeur. On pense à GitHub Copilot, par exemple. En fait, c'est pas si simple que ça. On a vu que les débuts étaient assez lents. La raison à cela, c'est que les gens savent pas véritablement comment l'utiliser. Donc en fait, même dans un monde où naturellement les gens sont assez appétents en fait à ces nouvelles technologies là, il y a un besoin de former. Alors aujourd'hui, un an après, bien entendu, il y a beaucoup plus de gens. On est à plus de 50% des gens qui vont utiliser ces technologies là dans leur quotidien. Mais ça ne se fait pas. C'est pas de façon automatique.
Alors, on a parlé de l'enthousiasme. Tiens, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps. On reviendra peut-être après sur l'enthousiasme, mais sur les freins. Quels sont les freins, justement, au développement de l'IA dans les entreprises ?
Eh bien, ça explique probablement une certaine inquiétude pour les Français quand on les interroge sur les principaux freins. Eh bien, ce qui sort en tête, c'est la crainte de fuite de données sensibles. Ouais. Donc, finalement, qu'on serait face à une technologie qui n'est pas en capacité de bien protéger nos données. Et ça, c'est une crainte. Alors, fondée ou non, c'est un autre sujet.
Ah, mais c'est quand même pas mal que ça paraisse en premier.
Mais en tout cas, c'est la principale des craintes. Ensuite, il y a quelque chose qui paraît évident, hein, et c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est le manque de compétences, le manque de rigueur sur l'utilisation de la donnée, donc ça rejoint à la fois les compétences et à la fois les craintes. Mais voilà les grands freins.
Oui, la
résistance au changement, etc. C'est des choses qui arrivent. Mais il y a vraiment deux raisons majeures et on retrouve à peu près les mêmes raisons chez les professionnels de la tech. Donc il y a cette inquiétude qui est peut-être... Alors effectivement, en le voyant négativement, les Français sont systématiquement parmi les plus pessimistes du monde. On a toujours un regard un peu négatif. Si on le voit positivement, on peut se dire qu'on est aussi les plus vigilants. Ben, en tout cas,
moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai vu. Parce que, et justement, juste un mot, je reviens juste deux secondes sur l'étude BCG. Il y a un expert là, qui a parlé. Il a dit pourquoi en la France, on est plus inquiet. Bien pareil, c'est la protection des données qui arrive en premier. Ouais, ouais. Alors après, c'est évidemment l'impact sur l'emploi. Ben, ça rejoint les compétences, la résistance au changement, etc. Ouais. Donc c'est une vraie inquiétude. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Alors après, vient en troisième, l'IA responsable. On en reparlera après, mais Marc.
On commence. Moi, j'ai toujours eu peur lorsqu'on parle de technologie d'avancée extrêmement poussée et derrière du régulateur et du législateur. Parce que c'est deux écoles et deux façons d'avancer, deux échelles de temps qui sont un petit peu différentes. Là, récemment, la CNIL ou l'IA Act, si on le prend au niveau européen, l'objectif, c'est pas de sécuriser les données. L'objectif, c'est de protéger les personnes qui sont derrière ces données, évidemment. Et ça, on peut pas évidemment reprocher quoi que ce soit en termes de démarche. Par contre, là où on pourrait avoir un peu plus d'appréhension, c'est quelle est la vitesse d'adaptation par rapport à un marché qui ne se limite pas aux frontières de l'Europe. Notre compétitivité économique là, elle dépasse évidemment les frontières de l'Europe. Donc, quelle est la réponse qu'on va mettre en place, nous, Européens, pour être capable d'être aussi véloce que d'autres puissances étrangères qui, elles, ne se posent pas le début du quart de la question sur la protection des données. On a aujourd'hui des modèles qui apprennent sur des données biométriques absolument non partagées, alors évidemment qui ne sont pas en Europe, mais qui ont des résultats derrière en termes de performance qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas le même volume de données. Or, la donnée, ça reste le fuel numéro un de l'IA. Si on se coupe d'une partie du fuel de l'IA, qu'est-ce qu'on devient ? Sachant qu'il est hors de question qu'on mette en péril la sécurité des personnes.
Emmanuel, sur justement, c'est les principaux freins, donc voilà, la crainte de fuite de données. J'imagine que pareil, hein, tu vois ça sur le marché, c'est quand on pose la question, c'est mes données... Mon job.
Oui, c'est un peu ça. Oui, mes données, mon job. Alors, sur les données, effectivement, c'est un sujet qui est encore plus présent qu'il y a quelques temps. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans ce sujet-là. Le sujet de la protection des données a toujours été un sujet important.
On a été à l'initiative du RGPD.
On est à l'initiative. Oui, mais même de façon plus pragmatique. En fait, moi, je fais quand même une séparation forte entre le législateur d'un côté, qu'il soit français ou européen, et quelque part la réalité des entreprises. Alors, les deux se nourrissent, bien entendu. Mais de façon très concrète, c'est un vrai sujet qui touche les entreprises depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est encore plus vrai. Mais moi, j'ai un peu l'impression que ce sujet de la fuite des données, il est lié à notre manque de souveraineté. Si on avait un cloud provider qui est un OpenAI français, est-ce que les gens seraient tout aussi sensibles sur la fuite de données ? Je ne sais pas. J'ai l'impression un peu qu'il y a cette fuite un peu du grand vilain américain chez qui je vais tout mettre et qui du coup me donne une raison de pouvoir dire « Ah là là, attention, il faut qu'on fasse faire attention à la fuite des données
oui. ».
Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur mon job. Alors mon job, c'est très intéressant parce que c'est pareil, ça fait 10 ans qu'on entend la première étude qui est sortie par l'université d'Oxford dans les années 2010 qui disait « Oh là là, on va tous mourir, les jobs, on va tous être remplacés par des robots bon, ». La réalité sur les 10 dernières années, c'est que ça ne s'est pas produit. Le meilleur exemple que je voudrais citer, c'est les radiologues. Les radiologues, je ne sais pas pourquoi, il y a eu tout un sujet dans les années 2015 où on disait « ça y est, les radiologues, c'est fini, ils vont tous être remplacés par des robots ». Aujourd'hui, en 2024, si on fait le point, c'est pas vrai en fait. Les radiologues, ils sont toujours là. Mmh. Et ce qui s'est passé, ce que les gens ont appris, c'est deux choses. Premièrement, le radiologue, il passe pas sa vie à analyser des radios. Il passe 10%, 20% de son temps à analyser des radios. Le reste du temps, il va voir les patients, il explique les choses, il discute, il fait de l'administratif, tout un tas de choses qui sont pas, en fait, remplaçables aussi facilement que ça par une IA. Le deuxième point, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire que pour entraîner mon modèle, même si j'ai un super modèle qui analyse des radios, il me faut de la donnée de qualité, des radios précédentes que j'ai analysées, et même aux États-Unis, c'est pas si simple que ça. D'accord.
Après, ce qui change avec, je trouve, avec l'IA générative, c'est la rapidité à laquelle ça se déploie. Parce que les technologies, on a vu la transformation numérique, le cloud, tout ça, ça a mis du temps. Mmh. En 18 mois, enfin, c'est quand même incroyable où on en est tous de l'usage, alors à titre personnel ou à titre perso dans l'entreprise. C'est quand même, je sais pas, Marc et puis Emmanuel.
Mmh. Mais, alors, je vais rebondir sur ce que disait Emmanuel. Quand l'IA générative, attention, l'IA générative n'est qu'un tout petit sujet.
Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, on devrait dire les intelligences artificielles.
Exactement. Mais sur l'IA générative, pour reprendre l'exemple de métier chez nous, en passant du développeur au directeur artistique, il y a eu effectivement au départ une approche qui est finalement assez culturelle chez nous, de dire l'inconnu, puis c'est nouveau, j'y vais pas forcément, je suis pas forcément attiré. Ceux qui, à l'inverse, ont fait l'effort, en quelques semaines, ont eu des gains de productivité absolument incroyables, et aujourd'hui ne reviendraient pas à l'ancien modèle. Mais il y a un effort d'adaptation qui est finalement un effort relativement classique lorsqu'on parle d'innovation, c'est quel effort va-t-on mettre sur l'adoption de ces nouveaux usages, puisque finalement, c'est la clé. À quelle vitesse est-ce que je vais pouvoir embarquer l'ensemble de mes équipes vers des modèles où leur métier est powered by l'IA? Mais en fait, il n'y a qu'une façon de faire. Elle n'est pas théorique, elle est juste pratique. Il faut qu'on accélère l'effort aujourd'hui au niveau de l'ensemble des entreprises sur la praticité, commencer par l'exemple des nouveaux modèles montrés sur des cas d'usage qui sont notre quotidien. Comment est-ce qu'ils peuvent être améliorés au travers de l'IA? Et là, je vous assure que les chiffres vont changer très rapidement.
Et là, justement, on arrive sur l'autre question posée afin d'accompagner les entreprises et les salariés dans l'utilisation de l'IA. Quelles sont les formations qu'il faut faire en priorité? Et là, voilà, la question a été posée.
Et on retrouve un peu les deux grands piliers, hein, finalement. C'est d'un côté le cadre, comment encadrer, sécuriser, éviter en fait de faire des bêtises. C'est un peu ce que nous disent, hein, si on traduit
les formations sur le risque, la sécurité, la propriété intellectuelle.
Voilà. Et de l'autre côté, les compétences, tout simplement. Et donc, ce qui arrive en tête, c'est des formations sur le risque, la sécurité, la propriété intellectuelle en lien avec l'IA. Et en deuxième position, ce sont des formations portées sur l'évolution de son travail. Et donc sur la meilleure manière d'intégrer l'IA dans son travail. Donc d'avoir vraiment quelque chose de concret, ce que disait à l'instant Marc, hein, c'est comment j'utilise l'IA dans mon métier, comment je gagne de la productivité concrètement. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait, dans l'esprit des salariés. Ça, c'est important de retenir ça, c'est qu'on ne pourra pas forcer les salariés à y aller si on ne leur donne pas les clés d'une part et si on ne leur donne pas le cadre d'autre part. C'est vraiment ces deux piliers qui sont...
Et c'est ce qui change, hein, justement, les formations au codage, au développement, elles arrivent plutôt à la fin, mais c'est souvent, lorsqu'on parle de formation, les gens se disent, oui, mais attendez, moi je n'ai pas envie de coder et tout ça. Ouais. C'est de démystifier aussi tout ça, de dire, oui, alors si vous avez envie d'être développeur, il y a ce qu'il faut, data science, faites des maths, il y a ce qu'il faut, mais apprenez aussi à faire du prompt, genre de choses. Hein,
ouais, exactement, et c'était vrai aussi quand les moteurs de recherche sont sortis il y a 20 ans. Les gens savaient pas l'utiliser, en fait. Aujourd'hui, ça paraît insensé de pas savoir réussir à faire une requête sur Google. Mais il y a 20 ans, il fallait expliquer aux gens. Alors, il y avait ce même clivage un peu générationnel. Les jeunes comprenaient plus rapidement que les personnes de plutôt 40 ou 50 ans. Mais il a fallu leur expliquer. Là, je pense que c'est pareil et c'est même encore plus complexe. Parce que la manière dont on va utiliser un outil, la manière dont on va le questionner, la manière dont on va lui demander d'adopter, par exemple, une succession d'étapes, c'est un certain savoir-faire.
Ah oui.
J'en vois pas diffuser dans l'espace, hein, quand je dis ça. Mais c'est un certain savoir-faire et je pense qu'il faut réussir à l'apprendre. Il y a une difficulté, je pense, que j'ai pas encore craqué. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas encore craqué. C'est que, en fait, il y a une certaine forme d'inertie quand on veut changer les programmes ou quand on veut créer des programmes de formation. Un programme de formation, ça se crée pas en 3 jours, en fait. Que ce soit pour une école d'ingénieur ou pas. Et comme ça va vite,
on a l'impression que...
Ouais, en fait, il faut se réinventer à chaque fois. C'est-à-dire que je peux décider aujourd'hui de créer un programme de formation, il sort dans 3 mois, mais zut, dans 3 mois, en fait, il y a des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouveaux paradigmes qui font qu'il faut que je l'adapte. Donc, en fait, il faut se créer une certaine forme d'agilité là-dedans qui aujourd'hui n'existe pas dans la formation. Ouais. Moi, j'ai fait partie d'un comité de sélection de programmes dans une école d'ingénieurs française. À l'époque, c'était l'anecdote que je vous raconte, c'était en 2018. À l'époque, toutes les écoles d'ingénieurs formaient des data scientists. Et moi, je leur disais, mais attendez, les data scientists, c'est bien, mais j'en ai trop. Ouais. Il faut me former des data engineers, des gens qui sont capables de construire des plateformes de data.
Il y a une dizaine de métiers autour de la data.
Il y a une dizaine de métiers autour de la data. Alors les gens, ils ont dit génial, génial, génial. Ils ont changé leur programme. Il a fallu que j'attende 3 ans avant d'avoir des data engineers formés. Et ça, c'est pas possible en fait dans l'IA génératif. C'est pas possible. Donc il faut qu'on recrée une certaine forme d'agilité au niveau de la formation. Et je pense qu'il y a beaucoup de business à faire. Les gens qui ont peur, par exemple, que l'IA tue des emplois. Moi, je pense que ça va en créer énormément dans la formation.
C'est ce qu'on dit tous, Marc, sur cette idée de la formation.
Oui, il y a des sujets effectivement qui sont essentiels. J'appelle juste que l'appareil pédagogique qu'on mettra en place ne soit pas le même que celui qu'on a essayé de mettre en place il y a des années. Il y a vraiment la partie cognitive qui est essentielle dans l'apprentissage, mais surtout encore une fois la pratique. Je vais vous prendre 2 exemples qui nous concernent au premier rang. Engager une transformation autour de l'IA, si je n'ai pas un cas d'usage qui va parler aux dirigeants. Je vais vous donner un exemple précis. Le dirigeant, c'est le soir, il doit préparer une note de synthèse pour son comité de direction. Il a l'IA. S'il sait le faire, il peut trouver très vite les dernières études sur un point de vue qui vont venir étayer son point de vue ou qui vont venir alimenter la réflexion.
Et là, il va comprendre tout de suite l'intérêt.
Si je lui parle de ça, ça fonctionne. Si je lui montre Copilot qui va me faire un graphique Excel automatiquement, ça va beaucoup moins lui parler. Mmh. Et ben, c'est exactement la même chose sur tous les métiers. On manque, en fait, je pense, de processus pédagogiques qui vont encore une fois privilégier la pratique. Et il y a urgence. Quand on se disait aujourd'hui, au début, sur cette enquête, que 75% aujourd'hui des salariés n'utilisent pas l'IA, le monde avance à une vitesse sur ce sujet dingue. Je pense qu'on ne voit qu'une seule partie du changement qui arrive devant nous et du défi auquel les entreprises doivent faire face. Il faut commencer, et le plus vite possible, par la pratique.
Mais je suis d'accord, hein, parce que sur l'histoire de Copilot, moi j'ai déjà vu des patrons qui m'ont dit, ils sont venus me voir avec Copilot. J'ai dit, attendez les gars, si c'est pour améliorer Word et Excel, faites des macros, voilà. Mais par contre, dès qu'on appelle en service client, de rédiger des mails, enfin tout ce genre de choses, c'est l'exemplarité, hein. Et donc on comprend. Et je trouve ce qui est intéressant là dans ces formats, c'est justement qu'on voit, on est plus dans l'usage que dans le côté, même s'il faut le côté opérationnel, mais on voit, on est vraiment dans cet écosystème sur les formations.
Oui, alors les formations vont être plus sur la manière d'utiliser les choses. Le point de Marc, c'était plus de ma compréhension sur comment j'arrive à expliquer à un COMEX la valeur qu'il va réussir à en trouver. Après, encore une fois, tu le disais, Marc, l'IA générative n'est qu'un élément dans le sujet de la data. Moi, je reste chevillé au corps cette statistique qui dit que les entreprises qui sont pilotées par les données sont meilleures, gagnent 12 points de performance par rapport à celles qui ne le sont pas.
Et du coup, il faut cette hygiène de la data, Marc ?
Alors, je le crois aussi. Il y a un élément que je rajouterais, mais qui est plus lié à nos métiers, c'est poser la vision aujourd'hui sur ce que va être l'entreprise demain avec l'IA. C'est extrêmement compliqué. Dit différemment, comprendre ce que va être l'entreprise, c'est compliqué. Alors, le comment, c'est encore plus compliqué derrière. Presque tous les 3 mois, il faudrait revisiter le quoi. Qu'est-ce que va être mon entreprise demain ? Presque tous les 3 mois. Ça nécessite derrière une vélocité énorme. Et derrière, on a ce besoin d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, maîtriser la data, évidemment, vous avez tout à fait raison. Le fuel d'un côté, la data, les algorithmes et la puissance de calcul de l'autre, évidemment. Mais ça ne suffit pas pour transitionner l'entreprise. C'est son actif premier qui va décider du succès, et l'actif premier des entreprises, c'est toujours la même chose, c'est salarié.
Oui, mais c'est salarié, c'est des métiers, hein, c'est ce que l'on voit d'ailleurs. Moi, je pense que c'est peut-être le côté positif de cette IA et de cette IA générative, même si, comme vous l'avez dit, ça n'est qu'une partie de cette IA, c'est que tout le monde peut s'en emparer beaucoup plus facilement que quand on parlait de cloud, où là on disait, je vais aller voir mon DSI. Là, on voit les métiers, aujourd'hui, ils sont capables de voir un peu comment ça se passe, et justement d'aller voir leur DSI, d'aller voir des cabinets de conseil pour les accompagner. Merci à tous les trois, merci Émile Leclerc, directeur d'études chez Doxa, là, pour ce baromètre très intéressant, hein. Vous voyez, on est vraiment dans l'air du temps avec cet usage de l'IA. On a envie d'y aller, on a quelques craintes, mais on sait qu'il faut de toute façon y aller, et vite surtout, hein. Je rappelle le rapport interministériel de Philippe Aillon et Anne Louvreau qui le dit bien, hein. Le premier thème, c'est la formation. Merci Marc Trilling de Sigus et Emmanuel Vignon de Sicara. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bonne semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.